Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund, mardi à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern, mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC. Round the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah, yeah, yeah.
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket time sur RMC, c'est parti. C'est votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec notre Dream Team. Stephen Brun. Salut Steve.
Salut mon petit Pierrot.
Frédéric Weiss, salut Fred.
Salut.
Fred qui est déjà hilar, mais on va vous expliquer pourquoi. Et Nicolas Bayou aujourd'hui, salut Nico.
Salut Pierrot, salut à tous.
C'est un spécial New York Knicks et c'est un basket time exceptionnel puisque nous accueillons Kyle O'Quinn, 8 saisons NBA dont 3 à New York, le nouvel intérieur du Paris Basket, la recrue phare de l'été. Nice to meet you Kyle, thank you very much to join us in basket time.
Thanks for having me.
How do you feel here in Paris?
Everything is good.
Tout va bien. Physiquement, je suis bien. Je suis dans une bonne équipe. La vie est cool. Et on ne peut jamais se plaindre quand on est à Paris.
Il y a un gabarit là dans le studio. Hein,
costaud. Costaud. Bien gaillard. Fred, Kyle et moi en 3-3, je pense qu'on fait une belle équipe.
Ça manque d'un meneur quand même.
Ça manque d'un meneur de jeu. C'est vrai.
Alors le programme aujourd'hui, donc on va beaucoup parler des New York Knicks, mais également du Paris Basketball avec Kyle O'Quinn. Les Knicks est-ce plus qu'un outsider cette saison pour un titre NBA, bien entendu. On va démarrer par là. On parlera aussi du coach Tom Thibodeau. Est-il le coach idéal pour les Knicks? Et puis nous allons refaire la draft de 2012. La draft de Kyle O'Quinn. Il y a beaucoup de grands noms dans cette draft, mais qui sont un peu disséminés. Hein. Alors Anthony Davis, numéro 1, ça n'étonnera personne. Vous allez me dire comment on classe les joueurs de cette draft 2012, maintenant qu'on a vu à peu près l'essentiel de leur carrière. Et puis on terminera avec quelques petites questions sur les New York Knicks. C'est parti donc pour Basket Time, spécial New York avec Kyle O'Quinn.
We are the New York Knicks. We are the New York Knicks.
Kemba Walker hits a deep one from straight on.
Walker to Barrett. Barrett, three-pointer is good. Randall on the drive, kicks it out. Fournier, a corner three. 10 straight points by the Knicks. Nice feed inside. Gibson to Randall with a foul. Knicks have a 2-on-1. Barrett goes right at Duarte. Tough shot, he gets the roll.
Go New York, go! Say go New York, go New York, go!
Est-ce que quelqu'un connaît cette chanson?
Non, c'est à l'ancienne ça.
C'est à l'ancienne, ça date de 94. C'est une chanson qui a été créée pour la finale de 94, la finale perdue par les Knicks, dont on va parler donc aujourd'hui avec Kyle O'Quinn. Alors quand même, on va faire honneur à notre invité et présenter Kyle qui a joué aux Knicks de 2015 à 2018. Un mot Kyle sur ces 3 saisons aux Knicks. Quel est ton plus grand souvenir? Qu'est-ce que tu retiens de ce passage aux Knicks?
It was just a good time of my life, you know, just getting an opportunity to play in front of
New York a vraiment été une époque cool dans ma vie. J'avais l'opportunité de jouer devant ma famille. Je suis originaire de New York. J'avais joué dans une université de New York, donc c'était vraiment la suite logique. À tous les matchs à domicile, mon meilleur ami était là. C'était vraiment la belle époque de pouvoir jouer devant ma famille.
Alors, des Knicks jusqu'à Paris, on va refaire le parcours de Kyle avec Nico Bayou.
Oui, Kyle Brandon O'Quinn, 472 matchs NBA en saison régulière, c'est-à-dire 472 fois plus que Fred ou Stephen, voire Pierrot. Né en 1990 dur, hein. À Jamaïca, pas le pays, hein, le quartier du Queens à New York, un enfant de la grosse pomme déjà. Vous faites votre lycée dans un lycée assez connu, Holy Cross à New York. Des études en maths, en sciences, en technologie, rien à voir avec votre personnalité, pleine de facéties, de plaisir et de sourire. Hein. Votre personnalité, on l'imagine plutôt comme un DJ dans un club ou animateur de Bar Mitzvah à New York. Ensuite, il y a la NCAA, les Spartans de Norfolk State, où vous battez le record de contre sur une saison, 110 contre sur une saison, à peu près 3 contre par match. Et puis la dernière année en senior, les Spartans et vous qualifiez pour la March Madness, le tournoi final NCAA en 2012. Premier tour contre Missouri, 26 points, 14 rebonds, victoire et un énorme exploit contre une équipe mieux classée. Et alors là, anecdote croustillante, Après la victoire dans le couloir de la fac, hilar, vous criez « We missed up some brackets, we missed up some brackets ». En gros, on a niqué quelques brackets. Alors, j'ai dit braquettes, hein, pas braguettes. C'est pas le truc que Stéphane ou Fred oublient tout le temps en sortant des toilettes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le bracket, c'est le tableau final NCAA avec, voilà, on met les équipes, on joue à ce jeu, même Barack Obama l'a rendu célèbre. Et puis, on n'oublie pas qu'au deuxième tour, bah, vous quittez cette March Madness avec simplement un petit match contre Florida, les Gators, l'ancienne équipe de Joakim Noah, 4 points et 3 rebonds. Puis ensuite, c'est la draft. NBA, juin 2012, 49e position par Orlando, une première saison correcte, hein, 4 points, 4 rebonds. Mais surtout, vous gagnez déjà un trophée pour votre engagement, le commitment dans l'équipe et votre énergie pendant les matchs. Orlando, vous y passez 3 saisons avant de revenir à la maison. New York, un contrat joli, 4 ans, 16 millions de dollars pour les Knicks. Vous réalisez votre meilleure saison, on en a parlé lors de la saison 2017-2018, 7 points, 6 rebonds en 20 matchs, des doubles-doubles, des records avec 15 rebonds, 16 rebonds par match. Et puis vous croisez des Français, Fournier à Orlando juste avant, New York, Frank Ntilikina, Kevin Serafin que vous rendez fou avec vos blagues et vos pièges. Mais surtout, vous devenez l'un des chouchous de la Mecque du basket, du Madison Square Garden, où vous parlez souvent au public avec un micro lors des entraînements, dans les avant-matchs. Et puis l'histoire avec New York s'arrête en 2018, vous êtes transféré à Indiana, puis à Philadelphie. Et puis l'Europe s'ouvre à vous l'an passé au Fenerbahçe avec Nando De Colo. Avec une question, est-ce que vous avez réussi à faire rire Nando, lui qui est si pro, si sérieux tout au long de la saison? Et puis enfin, cette année, Paris comme une évidence, la ville lumière pour vous, le New-Yorkais pur jus. Et avec votre caractère joyeux, plein de vie, on a envie de boire une bière avec vous, de parler de Paris, de basket, des Knicks. Avec cette question, est-ce que les Knicks vont nous faire vibrer cette saison?
On va en parler avec Kyle. Juste un mot sur le parcours de Kyle O'Quinn. Donc, tu étais animateur en bar mitzvah. C'était quoi, pour gagner un peu de sous? Comment c'est venu cette histoire?
It just started, you know, my agent was Jewish.
Mon agent était juif et j'ai été à la bar mitzvah de son enfant. On s'est éclaté, c'est une grosse fête dans la communauté juive. J'ai été à une première, puis à une autre, et sans prévenir, j'ai commencé toute une tournée. Je pense que je m'éclatais plus que les enfants.
Kyle, Nico demandait, vous avez joué au Fener la saison dernière avec Nando De Colo, qui est un garçon plutôt sérieux. Vous êtes un joyeux luron. Est-ce que vous avez réussi à faire des bonnes vannes pour faire rigoler Nando De Colo la saison dernière?
Bien entendu, ça fait partie de mon rôle. J'aime quand tout le monde est posé et relax. J'aime faire ressortir les attitudes américaines, peu importe la situation. Mais Nando est vraiment un super gars, un vrai professionnel. En fin de saison, il nous a vraiment portés. C'est un leader dans la préparation, surtout en avant-match. Il a réussi à me motiver et à nous motiver.
Kyle O'Quinn, notre invité dans Basket Time aujourd'hui. Un dernier mot sur ce parcours, un mot sur Frank Ntilikina, qui a quitté donc New York pour Dallas. Comment tu expliques qu'il ne se soit pas imposé aux Knicks?
Je pense que Frank était jeune. Il est arrivé dans une situation et dans une organisation où c'était important de gagner. Il y avait beaucoup de pression, de presse. Je pense que s'il avait joué ailleurs, cela aurait été différent et il aurait pu plus se développer. Mais il s'est quand même bien développé avec les années. Subir cette pression à cet âge-là peut être difficile, surtout quand on arrive dans un autre pays. J'ai 31 ans, j'arrive dans un autre pays et c'est difficile pour moi, donc je n'imagine même pas quand on a 19 ans. Mais Frank est vraiment un super gars, un super coéquipier, et il va continuer à grandir et à devenir meilleur année après année.
Kyle, on a Joakim Noah, quand on lui a parlé de son expérience à New York, il disait que c'était un petit peu perdu dans la natte new-yorkaise. Est-ce que tu faisais partie de ses collègues de night à Joakim Noah?
Yeah, I was one of his teammates in the locker room, but not in the night. I didn't lose myself. I'm from there, so.
Oui, j'étais son coéquipier dans les vestiaires, bien sûr, mais pas pour les virées nocturnes. Je ne me suis pas perdu car je suis de là-bas, donc c'est différent pour moi. J'étais habitué à ces choses qui étaient nouvelles pour ces gars. J'étais dans une période différente de ma carrière, une période charnière pour moi où je devais utiliser au mieux mon temps là-bas, car je voulais arriver où je suis arrivé dans ma carrière. Je pense que Joakim Noah a maximisé son passage à New York et il était un modèle pour les gars qui voulaient vivre cette vie.
Moi j'ai une question par rapport aux joueurs français. Tu as joué avec beaucoup de joueurs français. Je voulais savoir s'ils avaient tous un point commun déjà et lequel était le meilleur pour toi.
Je ne dirais jamais qui est le meilleur français parce que je les aime tous. But I will say French people,
je ne peux pas dire qui est le meilleur joueur français car je les aime tous. Les Français doivent s'adapter à toi. Au début, quand tu les rencontres, ils ne sont pas si amicaux, mais à la fin, tu comprends que ce sont des gens phénoménaux avec une façon à part d'être eux-mêmes, et j'ai vraiment apprécié cela.
Phenomenal people and they have a, you know, a very particular way about them and I appreciated it.
On est avec Kyle O'Quinn et on va démarrer donc sur les Knicks. Alors la première question qu'on se pose, est-ce que c'est mieux qu'un outsider cette saison, New York? En quelques mots, Nico, ça fait partie quand même des équipes qui ont bien recruté, qui se sont bien renforcées, notamment avec l'arrivée de Kemba Walker, bien sûr.
Ouais, deux grosses signatures à l'été. Kemba Walker qui a été coupé par OKC sera le meneur titulaire normalement. Et puis Vavan Fournier, hein, recruté pour 4 saisons, 78 millions de dollars. Et puis surtout, ce sont les ré-signatures qui renforcent finalement cette équipe des Knicks, parce qu'ils ont gardé Derrick Rose, hein, qui était quand même l'un des meilleurs sixième hommes de la Ligue, Julius Randle, qui a re-signé pour 4 ans, puis des joueurs de devoir du banc comme Alec Burks ou Nerlens Noel. Voilà, on est resté dans la continuité malgré les deux grosses arrivées avec Fournier et Kemba Walker.
Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer du côté des Knicks cette saison? T'as pas l'air emballé, Stephen.
C'est pas que je suis pas emballé, c'est que pour moi, déjà, la saison dernière, les Knicks ont surperformé. Mm-hmm. C'était miracle de terminer quatrième de la conférence Est et d'avoir l'avantage du terrain. Pour moi, c'était au-delà des espérances. Et on a vu que la réalité, ils l'ont pris de plein fouet au premier tour des playoffs contre les Hawks. Je me demande aussi, je me pose pas mal de questions sur Julius Randle, qui était le star pour la première fois la saison dernière. Est-ce qu'il a fait une saison de rêve ou c'est vraiment le go-to guy, le franchise player dont New York peut, sur lequel New York peut s'appuyer?
C'est la confirmation pour les deux. Hein. Pour l'équipe comme pour lui, et le go-to guy d'une équipe qui doit confirmer après une année aussi extraordinaire, c'est pas facile.
Et voilà, est-ce que maintenant, ils se sont renforcés offensivement? Et quand on connaît la philosophie de Tom Thibodeau, est-ce que Tom Thibodeau va pouvoir s'adapter à tous ses talents offensifs? Et la vraie clé de cette équipe pour moi, c'est Mitchell Robinson, qui a loupé trop de matchs la saison dernière, qui est le pivot, qui est censé être l'arme de dissuasion dans la raquette, 31 matchs seulement, et s'il est en bonne santé, ça peut changer la donne de ces Knicks-là. Mais j'ai envie de dire confirmé, contender je crois pas, une nouvelle participation en playoff, ça serait déjà bien.
Kyle, que peut faire New York cette saison en NBA? Quel objectif ils peuvent atteindre?
I think they'll offer a good, exciting season to the fans. You know, the fans deserve it. The organization deserves it.
Oui, je pense que les fans peuvent être excités pour la saison à venir. Les fans ont conscience de tout le travail effectué derrière, avec tout le staff d'entraînement ou les personnes qui bossent en coulisses. Je suis vraiment confiant pour la saison à venir. Je pense que les Knicks méritent de faire une bonne saison. La ville le mérite également. Et les fans vont pousser pour que cela s'accomplisse.
Fred,
moi,
pas emballé non plus, je ne me sens pas chaud sur New York.
Honnêtement, j'ai du mal. Encore une fois, moi je suis d'accord avec Stephen, je pense qu'ils ont surperformé l'année dernière et que c'est vrai que leur base défensive leur a permis d'être où ils ont été, avec encore une fois un joueur qui était incroyable et qui devra confirmer. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que finalement, quand Kemba Walker et Evan Fournier arrivent dans une équipe, t'as quand même deux joueurs du 5 majeur impérativement qui arrivent, des nouveaux joueurs. Donc finalement, c'est quand même, il y a quand même du changement dans cette équipe. Et c'est des joueurs qui, défensivement, même si Evan Fournier a fait beaucoup de progrès, c'est pas les meilleurs du monde et c'est pas ceux à qui tu as demandé de défendre le mieux. Quand t'as basé ta réussite de l'année précédente, parce que tu finis quatrième meilleure défense quand même de la Ligue l'année dernière, sur la défense, tu te poses la question quand, effectivement, tu seras bien meilleur offensivement, mais est-ce que ton socle, justement, est pas défensif? Et surtout quand t'as un Tom Thibodeau qui base sa façon de jouer sur ça, parce que seulement la 22e attaque l'année dernière, et finalement, ils finissent quand même quatrième à l'Est.
Alors, on va parler de Tom Thibodeau et de sa philosophie défensive ensuite, mais il y a peut-être aussi un problème quand même d'effectif. Globalement, est-ce qu'à l'intérieur, c'est suffisamment fort? Et puis, est-ce que c'est pas aussi beaucoup de joueurs, ça c'est pas de leur faute, mais qui passent plus de temps à l'infirmerie que sur le parquet? Il y a quand même des questions là-dessus.
Il y a des doutes sur Kemba Walker qui a un vrai problème de genou. Maintenant, ils ont eu un tarif, il est arrivé pour deux sneakers, hein, Kemba Walker, donc il fallait se jeter dessus.
C'est 8 millions la saison.
C'est 8 millions, et bon, il en prend 29 d'OKC sur les deux dernières saisons. C'est un pari qu'il fallait prendre. Maintenant, Kemba Walker, et Fred l'a dit, il a le syndrome du terrain en pente, c'est-à-dire que pour attaquer, ça descend bien. Pour défendre.
Tu l'as connu celui-là, hein?
Je l'ai bien connu.
Tu l'as même maîtrisé.
Je l'ai maîtrisé aussi. Écoute, Evan l'année dernière, je pense que les soucis physiques d'Evan l'année dernière sont derrière lui parce qu'il a chopé le Covid. Après, manque de rythme quand il arrive à Boston, il se bloque le dos. Il y a eu plein de petits pépins comme ça. Maintenant, je pense qu'il est en pleine forme. Derrick Rose, pour moi, a très bien fini la saison. Il était starter en playoff. Il joue 36 minutes de moyenne. Il était quasiment à 20 points de moyenne. Mais le problème de Tom Thibodeau, c'est qu'il a souvent épongé ses joueurs. On se rappelle à Chicago, je pense qu'il a ruiné la carrière de Joakim Noah. Je pense qu'il a ruiné la carrière de Lou Holding. Il a fait beaucoup de mal à ces garçons-là parce qu'il les rince et il les laisse beaucoup sur le terrain. Et ça a été le cas de Julius Randle et RJ Barrett la dernière saison. Donc forcément, mais dans toute la NBA, quand la saison est longue comme ça, tu fais avec les impondérables de blessures.
Kyle, il boit tes paroles en français.
Je pense qu'il
se laisse bercer par la musique du français et que ça lui plaît bien. Kyle, à l'intérieur, est-ce que New York peut rivaliser avec les meilleures franchises NBA?
I don't know. We have to see. You know, everybody has their style of play in the NBA. Everybody's kind of like playing check and chesses.
Je ne sais pas. Nous allons voir pour la continuité. Tout le monde peut avoir sa chance en NBA. Il peut y avoir des match-up intéressants. Si tout le monde travaille ensemble, ils vont gagner des matchs et ils peuvent vraiment faire une bonne saison.
J'ai une question pour toi. Julius Randle, il a fait une saison magnifique l'année dernière. Est-ce que tu penses qu'il peut confirmer cette saison ou il va être un petit peu moins bon?
Je ne peux pas dire qu'il va baisser son rendement, mais je pense qu'il va devoir rester consistant tout au long de la saison. Ça, c'est compliqué. Il va devoir rester concentré toute la saison, mais offensivement, ça reste un joueur incroyable.
Il n'a pas un peu choqué quand même en playoff contre les Hawks, Julius Randle?
Next question.
Tiens, juste un dernier mot là-dessus, et après on va pas se parler de Tom Thibodeau. Evan Fournier, tu le connais, Kyle, tu l'as côtoyé. Est-ce qu'il a le caractère, la personnalité pour devenir un chouchou du Garden?
Je pense que le Garden peut l'adorer. À New York, les fans peuvent soit t'adorer, soit te haïr.
He'll show your true character because the Garden is a special place.
C'est un joueur avec un fort caractère et ça, le Garden adore. Et il est prêt mentalement pour avoir une telle pression.
Basket Time tous les mardis en podcast sur rmc.fr. C'est un spécial New York Knicks aujourd'hui avec notre invité exceptionnel Kyle O'Quinn, la recrue phare du Paris Basketball. Tom Thibodeau, est-ce l'élément clé de cette saison?
He's also the two-time now NBA Coach of the Year.
He's the third Knicks head coach to win the award. And first since 1993, joining Red Holzman and Pat Riley.
To be a good team in this league, you have to be strong on both sides of the ball. But the defensive end, he's gotten better.
Win this game. That's all I want you thinking about. Quarter by quarter by quarter.
I think the first part is the defense and the rebound.
You guys keep pushing. Keep pushing. Don't give in.
It's a team sport. So everyone's role is important.
Help each other. Talk early. Early, loud, continuous talk. Tied together. Hustle play.
Spécial New York Knicks donc dans Basket Time sur RMC avec Kyle O'Quinn. On va parler de Tom Thibodeau et si c'était lui la clé. Pour l'instant, c'est plutôt une clé pour fermer les portes, hein, à double tour. Mais dans une équipe et dans une franchise où il y a du talent offensif, finalement, si tout ça se combine bien, est-ce que ça peut pas aussi faire un cocktail explosif? Alors ça a pas l'air d'être trop ce que vous me disiez dans la première partie du podcast. Nico, Tom Thibodeau, c'est un coach quand même qui a une excellente réputation malgré un palmarès vierge.
Ouais, zéro titre effectivement, mais il a monté New York dans les meilleures défenses de la NBA l'an passé, quatrième défense. Après, tout est question d'équilibre. C'est vrai que les recrues sont très offensives avec Fournier comme Kemba Walker. On va voir si l'identité va pouvoir perdurer avec ce coach, surtout qu'ils vont être attendus. Un joueur comme Julius Randle, bah forcément, il a explosé l'an passé, donc il va être encore plus scouté, plus attendu. Mais ils ont quand même encore les armes, hein, vu l'effectif, pour jouer un jeu défensif, ce qui est l'ADN de Tom Thibodeau.
Il va falloir qu'il trouve l'équilibre, Tom Thibodeau. Je pense qu'il va falloir qu'il lâche un petit peu de l'est offensivement.
Il va être obligé.
Il va être obligé quand t'as Evan et Kemba qui arrivent, qui sont des
Kemba Walker, c'est quoi? C'est un meneur-shooter?
Meneur-scoreur, il a fait...
Car il mange le ballon ou il distribue un peu quand même?
Il distribue quand il ne peut pas manger le ballon.
Mais
si Tom Thibodeau veut s'entêter à vouloir faire de cette équipe une équipe défensive, je pense qu'il va frustrer des mecs. Il va falloir qu'il lâche un petit peu de l'est, qu'il autorise des garçons à avoir un peu plus de liberté, qu'il autorise Kemba Walker parfois à se faire trouer défensivement. Et il va falloir qu'il trouve le bon équilibre.
Est-ce qu'on est capable de ça? Parce que concrètement, il a toujours appuyé... Oui. C'est équipes sur la défense et on les sent un peu. Enfin,
clairement une équipe offensive. Hein.
Ben c'est ça. On a toujours dit que ces équipes étaient en difficulté offensivement. En tous les cas, c'était pas très joli ce qu'ils proposaient offensivement. Là, il a dans ses mains de quoi vraiment jouer au basket en fait.
Comment gérer la répartition? Parce que l'année dernière, c'était Julius Randle numéro 1, R.J. Barrett numéro 2, et il y avait Emmanuel Quickly qui sortait du banc et qui, bon, vas-y, bon, shoot tes 15 tirs en 20 minutes, fais-toi plaisir. Maintenant, il faut donner à manger à Evan, à Kemba Walker, à Julius Randle, à R.J. Barrett. C'est le boulot d'un coach, même si en NBA, on dit souvent que c'est une ligue de joueurs et pas une ligue de coach. Là, il va falloir que Tom Thibodeau soit bon.
Après, c'est pas forcément un handicap, avoir plusieurs options offensives. Il y en a qui le font très bien, qui s'en accommodent très bien.
Il y en a une qui est un bon fit pour moi, surtout, c'est Evan. Evan, il est capable de jouer sans ballon et ça peut vraiment plaire à tout le monde. Walker, on sait qu'il a besoin du ballon pour jouer, qui va casser les chevilles. Et un joueur comme Fournier qui justement peut attendre le ballon, peut sortir après un écran pour prendre le shoot directement sans beaucoup de dribble et sans avoir le ballon trop entre les mains. Je pense que ça peut être un fit qui est hyper intéressant.
Premier indice sur ce qu'on a vu sur les 3-4 premiers matchs de préparation, on a vu des séquences hyper collectives où ça se passait la balle, les 5 joueurs touchés, on a même vu des séquences un peu aux Spurs, donc il y a aussi peut-être ce qui va arriver cette saison, ce jeu créatif qui va permettre aux...
La pré-saison, Nico.
Ouais, mais quand même.
Non, mais
quand
la pré-saison.
Quand même.
Et sur, je sais de quel type d'action tu parles, et Julius Randle n'était pas dans l'équipe à ce moment-là. Donc il va falloir intégrer Julius Randle en plus.
Après, on a vu que... Pourquoi il perd contre les Hawks l'année dernière au premier tour des playoffs? C'est que Julius Randle passe au travers, hein, il tombe à 18 points de moyenne et qu'il n'y a pas de relais offensif. Mmh. Et je suis désolé, en playoffs, la défense c'est bien, mais à un moment donné, tu as besoin de mecs qui mettent des pantons. Et ils n'en avaient pas.
Kyle, est-ce que Tom Thibodeau, c'est le coach idéal pour ces joueurs-là et pour cette franchise-là?
I think that he has to adjust just like the game has adjusted.
Il doit s'ajuster à l'évolution du jeu. Il a prouvé avec ses performances passées qu'il était au niveau pour ce job et je pense qu'il va bien travailler avec son staff. Quand on voit ce qu'il a fait, il connaît la formule pour gagner.
Et toi, est-ce que c'est toi qui as joué en NBA 8 saisons, est-ce que quand on dit le nom de Tom Thibodeau, c'est un nom qui fait entre guillemets rêver un joueur? Est-ce que c'est un coach avec qui on aurait aimé travailler?
Oh yeah, definitely. When you see success with players like Joakim Noah.
Oui, à coup sûr. Quand tu vois le succès qu'il a eu avec des joueurs comme Joakim Noah ou Taj Gibson, leur carrière, est-ce qu'ils ont réussi en playoff? Ils sont un peu des modèles et tu te dis que tu pourrais aussi jouer ce rôle pour ce coach, qu'il aime les grands, qui font ci, qui font ça. J'aurais aimé jouer pour lui quand il était à Chicago si j'en avais eu l'opportunité. Quand on voit un tel coach et ses succès, on se dit qu'il serait prêt pour n'importe quel job.
I think he'll be ready for any job that he has. Kyle, c'est quand même mieux de jouer sous Tom Thibodeau que Jeff Hornacek, hein.
L'amour.
This guy wants to start problems.
L'amour de Kyle en dit beaucoup. Tiens, on va faire une petite parenthèse sur les Knicks pour parler un peu de Paris et de ton coach, justement, Jean-Christophe Pratt. Alors là, c'est un profil très différent, mais très identifié aussi. On peut dire c'est un coach formateur, Nico.
Il a longtemps été assistant coach à Orléans, dans d'autres clubs comme ça. Il a été assistant en Turquie. Il a développé des jeunes joueurs, effectivement. Il s'appuie depuis qu'il est arrivé, c'était sa mission, s'appuyer sur des jeunes joueurs français, notamment Jean
Bégarin. Alors, il y en a dans cette équipe du Paris Basketball, il y a Ismaël Kamagaté, il y a Jean Bégarin. Quel est ton rôle, toi, Kyle, en tant que joueur très expérimenté dans cette jeune équipe parisienne?
Oui, c'est exactement ça. Je dois montrer la voie et essayer de progresser jour après jour à l'entraînement. Je dois être là pour répondre aux questions que les jeunes joueurs se posent.
You know, has the proper answers to those questions versus, you know, just guessing.
Bien entendu, j'ai un rôle avec les jeunes joueurs. Et pour aller vers le succès, j'ai ce rôle de grand frère à jouer.
But at the end of the day, I think that it's more like, you know, one of those things where they can ask the questions and get answers that they know are true.
Kyle, toute ta carrière, t'as été un peu un role player. Alors, c'est pas du tout un terme péjoratif. Là, on attend quand même de toi, Paris Basket, d'être un leader. Est-ce que tu en es conscient de ça? Est-ce que tu en es capable, surtout, parce que tu fais quand même partie des gros joueurs du championnat de France? Là, on va plus te demander d'être un role player, on va te demander d'être un mec qui ait de l'impact dans le championnat.
It's a little different for me, I will say. You know, it is different. You know, having to worry about what guys are...
Oui, c'est un rôle différent pour moi. Je dois m'adapter, faire mon travail du mieux que je puisse, comme tout au long de ma carrière. J'ai eu une discussion avec le coach. Je ne peux pas être le leader de mes années au collège, mais je vais essayer de montrer la voie. Je n'ai jamais eu ce rôle dans ma carrière, c'est une transition, et je dois jouer à haut niveau pour pouvoir porter ce club.
Maintenant, t'es obligé de mettre 20 points tous les week-ends.
Yeah, I'm getting adjusted to that too. You know, French referees, French league. I'm getting adjusted.
Je dois déjà m'adapter aux arbitres français, à tout plein de nouvelles choses. C'est un nouveau challenge pour moi et je dois m'adapter pour être à la hauteur.
You know, my next challenge, it is what it is.
At least 20. Yeah.
At least 20. Moi, j'ai une question. On parlait de Tom Thibodeau sur la défense, justement sa façon de gérer son équipe grâce à une grosse défense. Là, depuis le début de saison, vous encaissez beaucoup de points au Paris Basket. Est-ce que ça t'inquiète un petit peu ou est-ce que il y a des solutions déjà qui vont être trouvées? Parce que clairement, si tu veux aller loin, il faut défendre.
I'll call Tom Thibodeau after I leave here. No, I don't know. You know, it's simple things. You know,
on doit faire des choses plus simples, arrêter de faire des erreurs bêtes. Doucement, nous allons comprendre vers quoi nous devons aller, et nous allons vite comprendre que la défense est la chose la plus importante quand tu es jeune. Avec notre énergie, nous devons tout donner en défense pour être performant en attaque. Nous devons remporter un ou deux matchs pour commencer une dynamique positive.
At the same time, it's easier said than done, and I think that, you know, we need about one or two wins to see how we win games, and I think that that'll help and turn around.
Qu'est-ce qui t'a séduit dans le projet de Paris? Pourquoi tu as dit oui à Paris? Pourquoi tu es venu ici avec ce projet qui n'en est qu'à ses débuts, où il y a beaucoup de choses à faire?
I mean, when it landed on my table, you know, my agent, you know, talked to me about, you know, location.
Quand cette proposition est arrivée sur ma table, que mon agent m'en a parlé, m'a parlé de la ville et du fait que cela fasse sens financièrement, je me suis dit qu'à ce point de ma carrière, j'étais prêt à faire quelque chose de nouveau plutôt que de faire ce à quoi j'étais habitué, à savoir aller dans un camp d'entraînement NBA pour tenter ma chance face à des jeunes joueurs. Pour être en mesure de prolonger ma carrière, je me suis dit que j'allais saisir cette chance et aller jouer au basket à Paris. Si vous voulez que je sois honnête, à ce point-là de ma carrière, peu importe.
Dis-nous la vérité, t'es quand même venu à Paris pour les boulangeries.
A good croissant and some coffee, you can't go wrong with that, you know, boulangerie.
Kyle O'Quinn dans Basket Time sur RMC. Dis-nous un mot de ce Ismaël Kamagaté, alors que les spécialistes connaissent, mais qu'on va découvrir, nous, dans cette saison.
Oui, Ismaël, c'est un prospect NBA. Il va haut, il court vite, il a de bonnes mains. Il est excellent pour protéger le cercle. La prochaine transition sera pour lui de savoir comment il peut s'adapter au gabarit NBA. Dans le championnat français, il domine. Il a fait 9 contre lors de notre dernière rencontre face à Rouen. Mais peut-il jouer pivot en NBA? Les intérieurs sont forcément plus puissants et plus grands là-bas. Même les extérieurs comme PJ Tucker le sont. Ça restera sa vraie évolution, mais oui, ça reste un prospect incroyable, et s'il continue d'être consistant et à ce niveau, il sera drafté très haut.
Juste pour dire un mot, pour l'instant, c'est le meilleur contreur en ce début de saison, donc c'est un jeune joueur dont on n'a pas encore vu grand-chose, hein, évidemment. Si vous voulez aller voir Ismaël Kamagaté, si vous voulez aller voir Kyle O'Quinn, les prochains matchs, je vous les donne, à la Halle Carpentier, donc dans le 13e arrondissement à Paris, il y a Paris Basketball Rouen, c'est en Coupe de France le 20 octobre, et on aura en championnat le 24 octobre le match contre Le Mans. Tu les as vus jouer, toi, Steve?
Moi, je suis allé les voir jouer contre Rouen. C'était un match plaisant, c'était un petit peu un All-Star Game, beaucoup de points, je crois, 97-96. J'ai vu Ismaël Kamagaté qui a mis 9 comptes, qui est impressionnant. Mais cette équipe, elle est intéressante parce qu'elle a beaucoup de jeunes, elle a beaucoup de prospects. Mais elle a surtout un ancien, et je voudrais savoir, Kyle, quand t'es arrivé dans cette équipe, et que tu as vu qu'il y avait un mec qui avait 40 ans, tu t'es dit, mais est-ce que c'est possible encore de jouer au basket à 40 ans? À Marassi, notamment.
For 40, he looks good, you know. I don't think at 40 I'll be playing, you know, running plays in French League, but...
Oui, j'ai entendu dire que c'était une légende. Pour un joueur de 40 ans, il est très en forme. Je ne pense pas que je jouerai à ce niveau de compétition à 40 ans. Il a fait un travail incroyable pour préserver son corps. C'est une légende qui mérite du respect et je suis honoré de côtoyer un joueur qui a connu une telle carrière. Il y a différentes voies, la NBA, le championnat français. Mais au final, peu importe où vous jouez dans le monde, si vous avez une carrière comme la sienne, vous lui tirez juste votre chapeau pour ça.
Basket Time, spécial New York Knicks aujourd'hui avec notre invité Kyle O'Quinn qui a passé 3 saisons aux Knicks. A été drafté en 2012. Notre débat historique va être de refaire cette draft 2012.
With the 20th pick in the 2012 NBA draft, the Denver Nuggets select Evan Fournier from Saint Maurice, France, and he last played for Poitiers in France.
He's only 19 years old. Handles the ball well. He's going to be an NBA shooting guard. I think he'll translate pretty well. Remember this, French guys are doing well in the NBA. You think of Parker, you think of Batum, you think of guys like that.
Alors, vous allez refaire la draft 2012, évidemment, c'est plus facile quand on connaît la carrière des joueurs qui sont concernés. Je pense notamment que Charlotte aurait peut-être pas choisi Michael Kidd-Gilchrist en deuxième, ni Dion Waiters pour les Cavs de Cleveland. Après, il y a quelques grands noms qui sont un peu disséminés. Il y a Anthony Davis, il y a Bradley Beal, on l'a entendu, Evan Fournier, Kyle qui a été choisi au deuxième tour. Fais-nous un petit topo de cette draft 2012. Comment les franchises ont choisi les joueurs à cette époque alors qu'ils sortaient de l'université?
Ouais, là, il y avait un peu de tout dans cette draft, qui était une belle draft, hein, quand même, en 2012. Il y avait de la star, on a parlé, Anthony Davis, Bradley Beal, il y avait Damian Lillard en sixième position. Il y avait du français avec Evan Fournier, et puis du flop aussi. Il y avait des joueurs qui étaient un peu trop haut. Il y avait surtout 6 joueurs de l'université de Kentucky, c'est un record.
Les champions en titre.
Exactement, avec Anthony Davis et Michael Kidd-Gilchrist. 6 joueurs de la même fac, c'est un record, et surtout les deux, numéro 1 et 2, issu de la même fac, Kentucky. Et puis il y a eu quelques fiascos comme Thomas Robinson. On a cru que c'était le petit frère de David Robinson, mais il a disparu totalement. Lui qui a été signé par les Kings, c'était l'un des rares rookies à être viré, en fait, échangé au cours de sa saison rookie. Et puis donc on retrouve Evan Fournier numéro 20. On retrouve des joueurs énormes comme Draymond Green, hein, qui était en 35e position, trois fois champion NBA, en 39e Chris Middleton. On aurait pu les mettre beaucoup plus haut, ces stars.
Tiens, avant de vous demander, vous, quel serait votre classement après coup, Kyle, parle-nous de ce moment qui est unique dans la carrière d'un basketteur, la draft, comment tu l'as vécu et comment tu as accueilli cette draft par Orlando.
Oui, la draft, c'était peut-être l'une des nuits les plus importantes de ma vie. Je ne voulais pas décevoir ma famille et mes amis autour. Ma mère me disait
« It's okay, baby, you know. It's okay, you know, you didn't want to hear that shit. So it's just kind of like, you know, you want to just continue to... »
Tu pouvais juste continuer à te fixer des objectifs. J'avais fait de belles saisons en université, nous avions gagné un titre et je ne voulais vraiment pas décevoir ma famille.
And it was like the perfect, you know, cherry on top for a good year that I had, and I think that was the biggest thing. I just didn't want to disappoint my family.
Moi, j'ai une question. Justement, t'as pas été déçu un petit peu parce que finalement t'es drafté un peu loin et beaucoup de gens parlaient d'un style même ce jour-là pour toi.
No, I mean, being 49, you're still top 60.
Talk about the style when we talk about you.
Yeah,
so, you know what I mean.
I wasn't disappointed, okay, you know, you look at
non, enfin oui, j'étais quand même déçu quand j'ai vu les autres gars qui étaient draftés devant moi, alors que je pensais peut-être que j'étais meilleur qu'eux. Après, ce sont des décisions de franchise d'équipe. Cette nuit-là, il ne faut pas oublier que seuls 60 joueurs sont draftés, et j'ai eu l'opportunité d'en faire partie, et j'en suis très fier.
Allez, c'est parti, on va refaire la draft une fois qu'on connaît à peu près la carrière des Lascars concernés. On est tous d'accord pour dire qu'Anthony Davis... Il n'y a pas photo. Même Damian Lillard, Bradley Beal ne rivalisent pas. C'est un numéro 1.
C'est un numéro 1. Ouais. C'est mérité largement parce qu'il est des deux côtés du terrain. Très bon en attaque, mais très bon défensivement aussi.
Et malgré les blessures.
Ah, je pense qu'il est monstrueux. If you have to redraft right now, do you take Anthony Davis as number 1?
You don't take a... You take size at number one, you know. You can't take away.
Non, Anthony Davis reste le numéro 1. On ne peut pas ne pas choisir un joueur avec cette taille qui sait tout faire. Je pense que tous les joueurs de ma draft étaient d'accord sur le fait qu'Anthony devait être choisi numéro 1. Oui, bien entendu, il y avait par exemple Damian Lillard dans cette draft. Mais Anthony Davis sait vraiment tout faire sur un terrain.
Tu peux pas passer. On va pas perdre de temps là-dessus. On garde le grand Anthony Davis numéro 1. Ensuite, comment ça se hiérarchise là, cette draft, Fred?
Moi, je mets en 2 Lillard. Lillard, je pense que justement...
Devant Bradley Beal.
Juste devant Bradley Beal, que j'aurais mis troisième, justement. Parce que je trouvais que c'était dans ce sens-là où moi, j'aurais choisi, encore une fois, parce qu'il est capable de faire plus de choses pour moi. Peut-être plus, encore une fois, unidimensionnel, c'est pas adapté, mais peut-être plus capable d'être bon des deux côtés. Et après, moi, j'ai mis Draymond Green en 4.
Mais j'ai lu... quand même Beal en 3 et Draymond Green en 4.
Exactement. Okay. Sachant que j'ai lu que Draymond Green disait comme moi qu'il aurait voulu être drafté 4.
T'aurais pu mettre Beal en 3 et Boule en 4.
C'est excellent. Nico, toi, tu...
J'ai le même... on peut continuer. J'ai le même 4 que Fred. Chris Middleton en 5, parce que Stéphane bien bas. 6e.
Devant Dede Drummond.
Ouais. Pas parce que c'est un joueur d'impact.
Déçu par son année aux Lakers. Pour moi, il a rétrogradé un petit peu par son année.
Est-ce que tu prendrais Middleton devant André Drummond?
Over Draymond Green?
Non, over André Drummond.
C'est quoi ce rire?
I mean, that's tough, you know.
You like this game, hein?
You put me in a tough spot, but you know, I mean, if you go,
tu me mets dans une mauvaise position. Mais si tu veux avoir du succès, tu prends Draymond Green en numéro 1. C'est très difficile aujourd'hui de savoir qui choisir. Comme je l'ai dit avant, il faut privilégier de la taille sur un shooter. C'était impossible d'imaginer que Chris Middleton allait atteindre ce niveau-là. Aujourd'hui, avec l'évolution du jeu, je prendrai Middleton car il peut apporter autre chose que des rebonds et des dunks. André Drummond reste un très bon joueur et à l'époque, ça restait un bon choix.
Pour le jeu d'aujourd'hui, je préfère Middleton à Drummond. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, entièrement d'accord. Après...
Alors, donc, on a Anthony Davis, Damian Lillard, Bradley Beal. Ensuite, ça se joue entre Middleton et Drummond.
Green.
À quel moment arrive Evan Fournier?
Là, maintenant?
Ouais,
6e.
Moi, je pense que je prendrais Jay Crowder avant Evan Fournier.
Yeah. Okay, but yeah, okay.
Aujourd'hui, la défense, c'est différent. Avant, on ne changeait pas sur les pick and roll. Maintenant, on le fait sur chaque situation. Crowder est meilleur sur ça, donc oui. Donc, tu peux prendre Crowder avant Fournier, ça ne me choque pas. Par contre, aujourd'hui, tu ne peux pas sélectionner Jay Crowder devant Evan Fournier.
Right now? No, sir.
Non, Evan Fournier est trop fort. Sur chaque situation de pick and roll, il peut finir au cercle.
Alors, de qui n'a-t-on pas encore parlé? Parce qu'après, il y a des noms qui ont fait des carrières en Europe. Il y a des mecs qui ont totalement disparu. Il y a Kyle qui était 49e, bien trop bas vu sa carrière.
Tu sais qu'il y a un mec qui a été drafté en 16 qui s'appelle Royce White. Mm-hmm. You remember Royce White?
I'll take you over Royce White.
You don't know him.
Non, l'histoire marrante quand même sur Royce White, c'est lorsqu'il est drafté par Houston, il leur dit clairement, j'ai peur de l'avion.
I knew that, and when I said it as a joke, we all laughed, yeah. But you can't, I mean... Skill-wise, okay, I'll take Royce White over you. But just
did
because
you
he can't...
see me play?
Yeah, yeah, I'll still take Royce White over
go
you.
Go on YouTube, tape...
Et alors, pour info, cette draft a été vraiment intéressante parce qu'il y avait un autre record en 33e position, Bernard James.
Ouais, ça passé par le 16 Pelimoges.
Ouais, il est catastrophique. Catastrophique, mais tu sais que ouais, c'est le joueur.
Plus, ça doit être un des plus vieux draftés.
C'est le plus vieux.
Ouais, c'est
le
ça.
Plus vieux joueur.
Parce qu'il était passé par un truc d'armée ou
27 ans. À 27 ans, effectivement, plus vieux joueur drafté à 27 ans par les Cavaliers de Cleveland.
Mmh. J'avais pas vu que juste après Chris Middleton, c'est Will Barton.
Will Barton.
C'est le Will Barton des Nuggets.
Oui.
Très bon joueur aussi.
Good player, Will Barton.
Qu'on peut mettre dans les 10 premiers de ce draft. Peut-être pas 10, 15.
Ouais, 15.
Ok.
Top 15.
Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore des joueurs dont vous voulez parler dans cette draft 2012?
Ouais, j'ai fait le tour.
On a fait le tour? Très bien. On parlera pas de Papa Nicolaou.
Tu sais qu'il est drafté. Il est drafté juste après, non, Kyle?
Exact, juste avant.
Tu connais le mec qui est drafté juste avant toi en 2012? Kostas Papanikolaou.
They made a mistake. They made a couple of mistakes that year, but you know, I'm not here to say all the mistakes that were made, you know?
Ouais, après, t'es quand même drafté dans une bonne ville, hein. Orlando, c'est sympa.
Nice city, you know, I think I walked into the good situation, it was all young.
Orlando est une ville vraiment très sympa, parfaite pour la progression des jeunes joueurs qui ont entre 20 et 22 ans. À l'époque, on avait Nikola Vucevic qui était dans sa deuxième saison NBA. On était jeunes, il y avait vraiment beaucoup de talent avec ces jeunes joueurs.
We were young, so they had patience. I don't think that if the organization... had that patience with us young guys, I don't think that I'd do 8 years.
Tiens, dans l'effectif du Paris Basketball, il y a un garçon qui s'appelle Jean Bégarin, qui a été drafté 45e, donc à peu près au même niveau que toi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il peut lui aussi être considéré comme un style? Est-ce qu'il a ses chances de s'imposer en NBA?
Oh yeah, you look at his physical attributes, you know he's big enough to guard different positions and he can shoot well.
Oui, physiquement, il est vraiment impressionnant. Il peut jouer à plusieurs postes sur le terrain. Il fait vraiment du très bon travail. Il doit apprendre à être plus patient et avec Boston, je pense que ça peut le faire.
Especially going to a team like Boston, you know, these guys are ready to win and they don't put anybody on their roster that can't contribute.
Est-ce que tu as déjà entendu parler de Victor Wembanyama? Cette pépite de 17 ans, 2m19 qui joue à l'ASVEL.
Oh yeah,
can shoot huge. 3 points, pass
yeah,
the ball.
Yeah. He's going to be good. He kind of reminds me like a Kristaps. He's like that same type of, you know.
Oui, Victor, c'est vraiment un excellent joueur. Il me fait penser à Kristaps Porzingis, de par sa taille déjà et aussi par certains de ses mouvements. Il peut être vraiment excellent. S'il arrive à ne pas perdre l'avantage sur certains matchups, ce sera vraiment un très bon joueur à l'avenir. J'ai récemment vu des vidéos de lui et vraiment, j'ai été impressionné.
French got a lot of talent.
Yeah, France got a lot of talent.
Tiens, pour finir sur cette draft 2012, quand même, il y a toujours un mystère. C'est comment il y a des franchises qui sont aussi mauvaises. Et alors, la palme, c'est Charlotte, non? Parce que Charlotte, je vois qu'ils avaient le premier choix du deuxième tour. Ils ont choisi Jeff Taylor.
Jeffrey Taylor, il play pour Real Madrid.
Il y a un bon joueur.
Jeff Taylor is French?
Non, il restait quand même Draymond Green, il restait Jay Crowder, Chris Middleton, Will Barton, Kyle O'Quinn.
Our Nets mistake during this draft because they took Keith Gilchrist at number 2, a guy who shoot like Bill Cartwright, and they took Jeffrey Taylor. But Jeffrey Taylor was playing well, but he got a problem with his wife.
Il y avait quand même Draymond Green encore. Allez, on va finir avec un petit quiz sur les Knicks.
Moi j'aime bien le air quiz en ce moment donc je suis bien.
NBA, on est sur du pignolage, du point, 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 point.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des équipes ou c'est chacun pour sa gueule?
Tu veux jouer avec moi, Kyle, ou pas? On se fait un petit 2 contre 2?
Yeah.
You can choose your teammate. Fred is a former Nick player. Nico is a former team reporter.
Let's play the young guys against old guys.
He has many knowledge of basketball. You can cross him or Steve.
Yeah, we match up against each other. We guard each other. Me and him versus me and him.
Yes.
Okay.
That's cool.
Okay, easy win.
Donc,
vous deux contre les deux.
Ok, c'est parti. Donc, alors, pour démarrer, je vais vous donner les clubs, enfin les franchises NBA d'un joueur dans l'ordre de sa carrière. Et vous devez deviner de qui il s'agit. You have to find the player that played at New York Knicks, of course, puisque c'est un spécial New York Knicks. Ensuite, au Seattle Supersonics. Et enfin, Orlando Magic. Who is this player?
Charles Oakley?
Jerome James.
Non, pas du tout. Vous allez chercher très...
Patrick Ewing.
Correct answer, Kyle. Il est trop content, Stephen.
Great pick.
Le premier point pour l'équipe Quinn Brun, ok.
Quinn Brun, c'est un bon nom.
Est-ce que vous vous souveniez que Patrick Ewing a joué à Seattle?
Alors, on préférait ne pas s'en souvenir, mais malheureusement...
Avec des stats en chute libre, à moins de 10 points à Seattle, comme à Orlando, où il était à 6 points pour sa dernière saison, c'était en 2002. Ok, maintenant, plus difficile. On va parler de la dernière finale des New York Knicks en 99. Ok. Je vais vous demander combien de joueurs vous êtes capable de me citer dans l'équipe des Spurs.
Vous pouvez vous concerter.
Okay. Et celui qui me donne le plus grand nombre, bien, essaye de répondre à la question. Vous êtes aux enchères, donc ils sont en train de se concerter là. Alors, combien de joueurs êtes-vous capable de me donner, Stephen et Kyle?
After a small consultation with my main Kyle, I think 7.
7 joueurs, pas mal.
Pas mieux.
Vous en avez plus?
Non, pas mieux.
Pas mieux.
7 for the Spurs only?
Only
seven,
Spurs, yeah. Hein. Ok.
Yeah.
Alors.
I think we got 7, yeah.
On est parti? Allez-y.
One by one, I go with David Robinson.
David Robinson, bien sûr, c'est correct.
David Robinson, Tim Duncan.
Tim Duncan, bien sûr.
Tony Parker.
Tony Parker, non.
No,
99.
My man.
No. Okay. Avery Johnson.
Avery Johnson, bien sûr. On est à 3.
Bruce Bowen n'y est pas. Robert Horry.
That's two mistakes already.
Robert Horry.
Robert Horry non plus.
Come where were these guys at?
Steve Kerr.
Steve Kerr, c'est correct, ça fait 4.
Jack Vaughn.
No Jack Vaughn.
Michael Finley.
C'est pas facile après, il n'y a pas Michael Finley.
Rachel Nesterovic.
Non plus. Nesterovic, c'est après. Ah, ça va être dur d'en trouver 7. Hein.
Malik Rose.
Malik Rose, c'est correct, ça fait 5. Encore 2. Allez, il y en a encore...
Greg Popovich.
Allez, je vous donne pas le point. Est-ce que vous en avez deux autres?
Sean Elliott,
c'est correct. Bravo.
Oh, Sean Elliott.
Il y a aussi Antonio Daniels.
Antonio Daniels.
Mais oui.
Et les autres, c'est Mario Ely. Jaren Jackson, Jerome Kersey et Gerard King. Donc ça fait...
Jerome Kersey.
Un partout, égalité.
1-1.
So, c'est la balle de match, ok.
Match point. Come on, Kai.
Ok, on va refaire le même jeu, les franchises dans l'ordre.
I shouldn't trust you, man.
Ok.
I'm sorry, I was 9 years old. Sorry.
That's good pick, thank you.
Je vous redonne les franchises dans l'ordre d'un joueur et vous devez deviner de qui il s'agit. C'est beaucoup plus difficile.
Je vous donne
juste un indice. C'est quand même un joueur très connu. He's a very well-known player, ok. Qui a démarré sa carrière. Boston Celtics, Toronto Raptors, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons, Denver Nuggets,
Stephen Marbury,
New York Knicks,
Carmelo, non,
LA Clippers, Detroit Pistons.
Oui, Antonio McDice? Non.
Non, mais he played with a long time, I guess.
Chauncey Billups?
Chauncey Billups, my man, Kyle Quinn! C'était dur, oh. C'était difficile parce que je vous donne pas le nombre de saisons. En fait, si je vous dis Detroit,
Chauncey Billups play for the Boston Celtics.
Il a démarré à Boston, ensuite Toronto, mais tout ça c'est sur des périodes très courtes. Effectivement, c'est Chauncey Billups qui part à New York dans l'échange avec Carmelo Anthony pour faire venir Carmelo à New York. Bravo Kyle, on peut quand même l'applaudir.
Bravo.
Vous pouvez vous incliner. Le 20 octobre, Paris Basketball Rouen à la Halle Carpentier, c'est en Coupe de France, et le 24 face au Mans en championnat. Merci beaucoup, Kyle. Thank you so much.
Merci beaucoup.
Have a good season, my friend.
Thank you, guys. Thank you for having me.
Et à la prochaine, à la semaine prochaine pour un nouveau Basket Time.
RMC Basket Time.